France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Nous sommes le samedi 16 novembre, soyez les bienvenus sur France Musique. Laurent Lefrançois est à la réalisation, Alexandre Billard et Cindy Le Grumelec à la technique. Bienvenue dans cette émission que nous consacrons aux pratiques amateurs, au chant choral, à la pédagogie et au plaisir de la musique. Et le menu du jour, le voici. À 8h, Christophe Chassol fera découvrir la musique indienne à Aliénor et Joshua, nos deux jeunes chanteurs invités ce mois-ci. À 8h15, Samir Rachid, violoncelliste du Quatuor Arod, évoquera ses premiers pas de musicien. À 8h20, notre reportage, nous irons faire un tour à Bordeaux, où est présentée La Légende du Roi Dragon, un opéra participatif d'Arthur Lavandier. Dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin nous plongera dans l'univers des comptines pour enfants, ce sera à 8h30. Et puis ensuite, notre invité du jour, qui sera Paul Arnaud Péjouan, directeur du festival L'Esprit du Piano à Bordeaux toujours. Enfin, en toute fin d'émission, Roselyne Bachelot nous racontera l'histoire de Guillaume Tell de Rossini. Très très bon réveil à l'écoute de France Musique.
Thank you.
Prélude et rappel des oiseaux de Jean-Philippe Rameau, extrait de ce nouvel album sorti hier chez Erato. Versailles, c'est le titre de ce nouveau disque d'Alexandre Tarot, qui 18 ans après son fameux disque Rameau, peut-être vous en rappelez-vous, revient pour notre plus grand plaisir à la musique baroque, avec Rameau bien sûr, mais aussi Lully Couperin ou Royer notamment. Alexandre Tarot qui sera en concert à la Philharmonie tout ce week-end, ce soir à 20h30 et puis demain à 17h30. Et pour ceux qui ne peuvent se rendre à Paris, eh bien, il y a d'autres dates évidemment, notamment le 22 janvier prochain à Piano à Lyon. Une autre nouveauté à 7h37, le premier tome de l'intégrale Beethoven du Quatuor Eben, qui célèbre à la fois le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven que nous fêterons en 2020 et puis une tournée mondiale aussi de 120 concerts dans 21 pays et 6 continents qui a démarré il y a quelques mois. Le Quatuor Eben s'est donc lancé dans l'enregistrement live de l'intégrale des 16 quatuors du compositeur. Et ce premier tome a été enregistré en live au Concert House de Vienne durant cette tournée. En voici un extrait pour vous accompagner ce matin.
Thank you.
Le premier mouvement du 7e Quatuor, opus 59 numéro 1 de Beethoven, interprété ici par le Quatuor Eben, un extrait de ce nouveau disque qui paraît chez Erato, en partenariat avec France Musique.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Chaque semaine, je sélectionne pour vous un livre-disque ou une bande dessinée pour faire découvrir la musique classique aux enfants. Et bien aujourd'hui, j'ai choisi pour vous Ko et Ko, les deux Esquimaux, un conte musical imaginé et créé par la peintre Maria Elena Vieira da Silva et l'écrivain Pierre Guéguen. Conte musical paru aux éditions Chandaigne, c'est l'histoire de Ko et Ko, deux Esquimaux qui se lancent à la découverte du monde. Ils partent à la recherche du soleil et en chemin, ils croisent des pingouins, un ours, un oiseau ou encore un cheval. Chaque page est merveilleusement illustrée par une peinture de l'artiste Maria Elena Vieira da Silva, disparue en 1992. C'est une réédition en réalité d'un conte paru en 1933, mais sous forme d'un livre-disque cette fois. Les compositions originales pour piano, violon et clarinette ont été confiées à Sergio Azevedo. Je vous propose de découvrir un extrait de ce livre qui s'adresse eh bien, aux enfants dès l'âge de 4 ans.
Après avoir joué aux boules de neige avec les fillettes Sapinette, Ko et Ko reprennent leur voyage vers le sud, le pays du soleil. En route, le bonhomme désolé, monté sur le cheval six pattes. Le bonhomme désolé les supplie de délivrer sa fille, enfermée depuis 10 ans au château des hiboux. Délivrer sa fille, enfermée depuis 10 ans au château des hiboux. Ko et Ko sont fort embarrassés. Mais voici le grand cerf. Le grand cerf leur dit : Je suis le cerf volant. Je me retourne comme un gant. À l'envers, en effet, c'est un vrai cerf-volant qui survole le château des hiboux. Grande marmite au bout, la marmaille des hiboux. S'accroche à la queue du cerf-volant. « le cerf-volant retombe sur ses pattes de cerf.
Un extrait du livre disque Co et Co, les deux Esquimaux, ce conte musical à découvrir donc, puisqu'il paraît aux éditions Chandaigne. Et puis avec le livre, on reçoit même des personnages à découper pour bricoler, se promener à travers les pages du livre comme dans un théâtre. La galerie Jeanne Buchet-Jagger, située dans le 3e arrondissement à Paris, vous donne d'ailleurs rendez-vous pour le lancement de ce livre disque aujourd'hui à 14h30. Il est 7h53 déjà sur France Musique et je vous propose aujourd'hui de gagner vos places pour le concert que le guitariste Thibaut Covin donnera au Palace à Paris le 26 novembre prochain. Thibaut Covin qui, sa guitare classique sous un bras, a fait plusieurs fois le tour du monde. Son album Cities au programme de ce concert nous raconte d'ailleurs les grandes cités du monde qui l'ont touché. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous donnez vos coordonnées et puis la bonne réponse à la question qui va suivre et vous recevrez peut-être deux places dans votre boîte aux lettres dans quelques jours. De quel instrument Thibaut Covin joue-t-il? C'est ce que je vous demande de deviner ce matin. Trois propositions: de la guitare, de l'octobasse ou bien du ukulélé. Si vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur francemusique.fr. Bonne chance à vous.
Thank you.
Xardas de Vittorio Monti, fameuse Xardas interprétée ici en duo par Thibaut Covin et Didier Lockwood, un extrait de ce disque paru chez Sony en 2018. Mais de quel instrument Thibaut Covin joue-t-il? Est-ce de la guitare, de l'octobasse ou bien du ukulélé? Si vous souhaitez tenter votre chance pour le concert qu'il donnera le 26 novembre prochain au Palace à Paris, eh bien il suffit de répondre à cette question et de vous connecter sur francemusique.fr. Bonne chance à vous.
Lundi 18 novembre, France Musique consacre la journée à François-Xavier Roth. Retour sur la carrière de l'un des chefs d'orchestre les plus passionnants de sa génération. Interview, discothèque idéale, ses affinités avec Beethoven ou d'autres compositeurs. Et à 20h, deux concerts avec François-Xavier Roth à la tête de l'Orchestre Symphonique de Londres, puis de l'Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise. De quoi réjouir les amateurs de Ravel, Boulez, Bartok et Stravinsky. Toutes les infos sur francemusique.fr et en podcast.
Ariodante, l'un des opéras les plus inspirés de Handel, le mardi 26 novembre à 20h à l'auditorium de Radio France. Une version de concert d'Ariodante servie par les plus séduisantes des voix baroques, dont Marianne Crébassa. Au pupitre, Marc Minkowski à la tête de ses musiciens du Louvre. Réservation maisondelaradio.fr. Entrez au cœur du concert.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là, dans, rue.
Vous allez l'adorer.
France Musique, il est 8h.
Cher auditrice, cher auditeur. Cher auditrice, cher auditeur.
Bonjour Christophe Chassol.
Eh bien bonjour Saskia, je suis ravi d'être là ce matin et nous allons parler, une fois n'est pas coutume, de musique indienne avec Aliénor et Joshua, nos camarades.
Aliénor Ruel Megrelis, j'ai 11 ans, je suis en 5e et je fais partie du chœur d'enfants sotto voce.
Bonjour, je m'appelle Joshua Duch, j'ai 11 ans, je suis en 6e et je fais aussi partie du chœur d'enfants sotto voce.
Fantastique. Les semaines d'air passées, on a vu les gymnopédies d'Eric Satie, musique occidentale. On a vu Serge Gainsbourg, français aussi, musique occidentale aussi. Et maintenant, on va aller vers un autre endroit qui est l'Orient. Et c'est, on appelle ça de la musique indienne classique, avec Malik Arjun Mansour. Alors là, moi, ça m'intéresse beaucoup pour plusieurs raisons. Je suis un fan de musique indienne, j'aime beaucoup Malik Arjun Mansour, qui est né en 1910, qui est mort en 92, je crois, qui a chanté toute sa vie et qui est un des grands maîtres de la musique classique indienne. Je vous le fais écouter pour plusieurs raisons. Je voudrais que vous arriviez à considérer votre voix comme une ligne, comme un fil caoutchouteux qu'on peut tordre dans tous les sens, que vous voyez vraiment, que vous produisiez un son qui soit une ligne, comme ça, avec laquelle on puisse étirer, retendre, l'enrouler. Et c'est ce que fait Malik Arjun Mansour. Mais alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a une note de basse, qui est le mi bémol, qui est souvent jouée par un tempura. Et par-dessus cette ligne, il va y avoir la mélodie, et les notes de ce qu'on appelle le raga, c'est-à-dire c'est en gros c'est la gamme. Là, ce sont ces notes là. Mi mi sa la si si ré mi ré si si la sol mi. Donc on va écouter quelques extraits. Avant, je vous dis juste une chose, c'est que la note de mélodie est toujours attirée par la note de basse et elle tourne autour de cette note. Écoutez ça. Là, la note de basse qui est l'aimant, qui est l'ancrage, c'est le mi bémol. Donc je vous fais le mi bémol à la mélodie. Et ce à quoi va s'amuser Malik Arjun Mansour, c'est à tourner autour de ce mi, qui est l'aimant. Si tu considères ta voix comme un fil, c'est comme si tu le poussais un petit peu comme ça. Tu poussais avec ton doigt sur ce fil et que tu le laissais remonter ensuite vers le mi. Le mi bémol. On va écouter un passage de Malik Arjun Mansour. Je vais le faire ce mi bémol avec moi. Bien fort, bien fort. Ah ouais, tu vois. Tu peux le faire onduler ? Le sol ? Alors, il y a un thème. En musique indienne, d'abord, au début des morceaux, on présente les notes qui vont être dans ce morceau. Et tout l'art de la musique indienne, c'est dans ce qui s'appelle l'alap. C'est le début des morceaux, qui est très lent, comme ça. L'art, c'est d'exposer les notes du raga. Donc... Mais c'est comment on va les aborder ? Par des ornements, comme ça. Il les expose, il les présente, et il les chante, comme ça, ouf. Avec de l'improvisation. Et ensuite, il y a toujours un thème qui arrive. Et les thèmes peuvent être très compliqués, mais il y en a des très simples, et celui-ci est très simple. Et le thème fait... Vous sentez comment il est atterré par le mi bémol ? Vous me faites ce thème ? C'est l'élastique un petit peu en haut. Et faites-moi le ré qui est juste en dessous du mi-bémol. Bien fort. Et puis on revient au mi-bémol. Et le thème ? Oh là là ! Vous voyez comme les planètes sont alignées avec ça ? Ça, c'est comme un fil parfait qui est tendu de façon parfaite et sur lequel on donne des petits coups. On va écouter le thème. Ok, on va passer directement à l'extrait 4 où on a ensuite des improvisations qui sont comme des gargarismes en somme. On écoute. Et tous même pendant les enregistrements, c'est ça. Ça vous plaît ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Allez, allez-y, allez-y. Il y a les notes du raga, c'est ce qui vous aidera à choisir les notes avec lesquelles vous pouvez improviser dans ce raga qui s'appelle Raga Bhairav. Ben voilà, les enfants, merci. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
L'Allegretto, extrait de la symphonie des jouets de Léopold Mozart, Neuville Mariner, ici à la direction de l'Académie de Saint-Martin in the Fields. Il est 8h10.
1, 2, 3.
Tu vois, toi, dans cette émission, nous nous intéressons au chant choral. Ça, ce sera avec Marc-Olivier Dupin d'ici 20 petites minutes. Nous nous intéressons aussi à la pédagogie, à la transmission, aux pratiques amateurs. Ces amateurs qui jouent pour leur propre plaisir. C'est d'ailleurs par là que tout a commencé pour les musiciens professionnels. Et ce matin, j'ai demandé à Samy Rachid, violoncelliste du Quatuor Harrod, de nous raconter ses débuts et l'impact de la musique sur sa vie.
La musique me procure beaucoup de fatigue, beaucoup de passion, beaucoup de plaisir, beaucoup de réflexion aussi sur nous, où est-ce qu'on va, toutes ces choses-là. Et aussi beaucoup d'émotions, parce qu'on est avant tout là pour ça, pour procurer de l'émotion aux gens. Donc je dirais, oui, selon le moment de la journée, à travers les répétitions ou les concerts, voilà, on passe un peu par tous ces états d'esprit. Eh bien, mon tout premier cours de musique, je me rappelle, car j'avais 10 ans, j'ai commencé le violoncelle assez tard. C'était avec Elsa Souchanek au club musical de Cormeilles-en-Parisis, et c'était absolument génial. Je n'ai eu malheureusement qu'un an avec elle, parce qu'après elle a quitté le club, et elle m'a envoyé chez un de ses confrères, François Poli, à Cergy, et c'était vraiment fascinant de voir une femme aussi investie avec tous ses jeunes élèves. Je pense que ça a été un très bon pied à l'étrier qu'elle a pour donner envie, tout simplement, parce qu'elle a su, avec des petits enfants qui savent rien faire sur un instrument, déjà leur donner du plaisir dessus. Donc je pense que c'est absolument fondamental pour bien continuer, pour persévérer. J'ai eu la chance, malheureusement, de n'avoir que des professeurs exceptionnels et qui m'ont tous apporté des choses très différentes. Je parlais de François Poli, qui est un de nos très grands continuistes, donc vraiment spécialisé dans la musique baroque, et même aujourd'hui au sein du Quatuor Harrod, il nous a apporté des choses sur le style classique, l'articulation, les phrasés. Donc ça a été quelqu'un qui a su éveiller en moi la curiosité, parce qu'il amenait toujours plein de partitions différentes, des duos de barrières, des choses comme ça qu'on ne voit pas forcément quand on est au conservatoire. Et ça a été vraiment le goût de la découverte avec François. Puis après, je suis parti à Marseille avec Odile Gabrielli, qui là a été une femme très structurante, qui m'a apporté beaucoup de rigueur dans mon travail, parce que j'étais assez tête en l'air dans mon jeune âge. Et elle a su vraiment me cadrer. Et ça, c'est primordial, parce que pour pouvoir, dans notre métier, aller au bout des choses, il faut avoir quand même c'est aussi un métier de rigueur. Donc voilà, Odile, ça a été le cadre, la structure. Puis après, les Jérôme et Cyril au conservatoire, Jérôme Pernaud et Cyril Lacroutz au Conservatoire supérieur de Paris, là ça a été la passion, la musique, aller au bout de l'interprétation, mettre les mains dans le cambouis avec Cyril Lacroutz, vraiment aller plus loin dans la technique du violoncelle, toutes ces choses-là. Donc j'avoue avoir beaucoup de chance de n'avoir eu que des professeurs d'exception, parce que je connais plein de gens qui ont eu des bons professeurs, puis d'autres avec qui ça a moins marché. Voilà, moi je suis un peu un chanceux de ce point de vue-là. Le plus difficile dans l'apprentissage, je m'en suis rendu compte, après avoir quitté le conservatoire, on se retrouve seul, sans forcément d'objectifs de concours, de choses comme ça. Et c'est dans c'est à ce moment-là que vraiment on se rend compte que bosser pour soi, c'est là où on a le besoin je parlais de cadre et de rigueur. C'est dans ces moments-là où vraiment on a besoin d'être bien structuré en amont, pour pas que tout tombe en morceaux une fois qu'on a plus justement ces aides que sont les professeurs qui nous apportent un cadre malgré eux. Voilà, c'est plutôt une fois être sorti du conservatoire qu'on se rend compte qu'on a besoin de structure. Si j'avais un conseil à donner à un jeune violoncelliste, ce serait de suivre son instinct quand il lui dicte d'aller à l'encontre de ses professeurs. Parce que c'est dans ces moments-là qu'il y a les débats les plus intéressants, que ce soit sur l'interprétation ou même sur l'orientation. Moi, par exemple, avant de faire du quatuor, je voulais absolument intégrer un orchestre, ma vie tournait autour de l'orchestre. Et ça m'embêtait énormément de devoir travailler des concertos. À l'époque, je ne savais pas qu'il fallait de toute façon jouer un concerto pour entrer dans l'orchestre lors du concours. Donc voilà, j'avais beaucoup de réticence à travailler les concertos. Mais cette réticence m'a aussi apporté une culture de l'orchestre, du répertoire, de choses comme ça, qui me font un bagage intéressant maintenant. Donc voilà, je pense que de s'écouter, on est toujours le meilleur conseil.
Thank you.
Un extrait du deuxième quatuor d'Alexander von Zemlinsky. 45 minutes de musique, un seul mouvement pour ce merveilleux quatuor à retrouver sur le nouveau disque du Quatuor Harrod. Deuxième opus baptisé de Mathilde Album qui paraît chez Erato en partenariat avec France Musique avec un programme ambitieux. De la musique créée et composée à Vienne au début du XXe siècle avec Schönberg, Webern et puis ce fameux Zemlinsky. Il est 8h et presque 21 minutes sur France Musique.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et c'est l'heure de notre reportage. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Saskia Deville.
Vous avez voyagé pour nous un peu à Bordeaux et un peu en Corée. Le Grand Théâtre de Bordeaux accueille en effet sur scène plus de 200 enfants pour interpréter un opéra contemporain. Il s'agit de la légende du roi dragon d'Arthur Lavandier qui s'inspire d'une légende coréenne et puis du pansori qui est l'opéra traditionnel coréen. Alors, ces enfants, ils viennent de REP, réseau d'éducation prioritaire, ils viennent de la métropole de Bordeaux et pour la plupart, ils n'ont jamais fait de chant. Mais après un an de travail avec des chefs de chœur et leurs professeurs, ils sont prêts à investir les planches de ce beau théâtre avec un peu de trac tout de même. Marie, vous avez assisté aux répétitions pour nous.
Ça c'est super, vous promettez que la prochaine fois c'est comme ça ?
Est-ce que ça t'a donné envie d'écouter d'autres opéras ?
Je trouve que c'est un petit peu long, donc moi regarder 1h30 des gens chanter,
ça t'ennuie, c'est ça ?
Oui, voilà.
Et vous ?
Faire un opéra, oui, voir, je sais pas.
C'est des notes aiguës, alors on comprend pas toujours tout.
Donc là, il faut articuler, c'est ça, Gabrielle ?
Bah oui, c'est ça, faut articuler. D'ici aux spectateurs, ceux qui sont tout là-bas, faut entendre. Oui. Après, moi, ce qui m'a fait peur, c'est qu'il fallait faire attention au déplacement, au geste, à la chanson. Le jour du spectacle, je sais pas si je vais y arriver, mais là, maintenant,
ouais,
ça va.
T'as peur d'être le seul qui ne fait pas tout bien et qui gâche tout.
C'est pas forcément facile, parce que y a plein de déplacements, chant, aigu, grave. Et admettons, si tout le monde est dans l'aigu et toi, t'es dans le grave, tu te sentirais un peu bête.
Ça a été dur quand même d'apprendre ça, non ?
Déjà que moi, j'avais pas l'habitude de chanter avec la voix snob, on va dire. Je chantais plutôt dans le médium ou dans le grave, alors.
Avec la voix quoi ?
Ben, la voix aiguë, je sais pas comment on dit.
Si une star devait venir vous voir, ce serait qui ?
Johnny Depp.
Johnny Depp ?
Oui, j'aime bien cet acteur.
Alors, je ne sais pas, Saskia, si Johnny Depp sera...
C'est trop mignon !
Mais ouais, ils sont adorables. Et en plus, ils sont hyper dynamiques. Donc, je ne sais pas si Johnny Depp sera présent demain pour assister à la première de cet opéra créé il y a quelques années par le jeune compositeur Arthur Lavandier. Une chose est sûre, Saskia, c'est qu'il aurait tort de manquer cet opéra absolument fantastique aux harmonies surprenantes et à l'histoire enchanteresse. Écoutez, Carlyle, une des élèves, nous racontait l'histoire.
C'est un roi qui, en fait, il tombe malade et il envoie son soldat sur terre pour aller chercher le remède pour sa maladie, en fait.
C'est quoi le remède ?
C'est le cœur du lapin.
Et oui, Saskia, ce roi dragon qui vit sous l'eau va devoir trouver un cœur de lapin pour se soigner. Une occasion pour les animaux aquatiques de rencontrer les animaux terrestres qui sont en pleine campagne électorale. Bref, tout un programme. On écoute Marc Leroy Calatayud, le chef d'orchestre.
C'est un opéra d'Arthur Lavandier, qui est un jeune compositeur qui a beaucoup travaillé avec Le Balcon, entre autres. C'est une œuvre qui est riche, une œuvre qui est complexe, qui rappelle des fois Stravinsky, des fois Ravel, des fois De Falla, enfin, plein de compositeurs. Mais il arrive à écrire pour les enfants de telle sorte qu'ils chantent quelque chose de compliqué, de riche, et qui s'intègre très très bien avec l'orchestre. Donc c'est vraiment une vraie œuvre contemporaine, une création contemporaine à laquelle on associe les enfants.
Des sonorités complexes parfois, Marie. Le défi pour ces enfants âgés d'une dizaine d'années est donc très élevé.
Et oui, mais heureusement, Claire, leur chef de chant, n'est jamais loin.
Ah oui, l'œuvre et l'écriture est très contemporaine. Les mélodies sont pas évidentes, beaucoup de notes comme ça piquées, donc quand même techniquement, il faut pas se casser la voix, on va dire. Donc au niveau du souffle, au niveau du placement de la voix, on a vraiment travaillé toute l'année pour faire attention à ça. Et puis les tempi, le rythme est très très rapide, donc faut suivre. Mais voilà, ils ont bien travaillé et ils s'en sortent plutôt pas mal.
Alors sur scène, ces jeunes chanteurs amateurs vont côtoyer des pros, comme Damien Passe, un des solistes qui interprète un tigre un peu crooner. Pour lui, c'est une vraie richesse de travailler avec ces jeunes.
Oui, cet côté amateur, en fait, pour moi, c'est surtout dans le timbre que dans la justesse. Peut-être c'est un timbre un peu moins soutenu. Mais quand ils chantent tous ensemble, en fait, il y a quelque chose qui dégage, qui, en fait, m'aide énormément. En fait, leur chant, c'est quelque chose un peu cru, mais ça rassemble une énergie sur le plateau. Mais vraiment, souvent, on ne trouve pas dans les chœurs professionnels.
Ce projet a été porté par l'Opéra National de Bordeaux et par l'Éducation Nationale, mais aussi par leurs professeurs.
Oui, on les écoute.
Moi, je suis très fier d'eux. J'ai vu vraiment une évolution depuis l'année dernière et je suis aussi très heureux de voir que les parents aussi s'investissent sur ce projet.
Bon, vous, ça fait un an et demi que vous entendez les paroles, les musiques. Vous connaissez par cœur, non ?
J'ai forcément assez régulièrement en tête des passages qui me reviennent. Non, bien sûr, surtout tous les passages qui sont retravaillés, ceux qui sont un peu plus problématiques. Alors ceux-là, oui, assez régulièrement, quand on vient passer une journée ici, on peut surprendre à chantonner des extraits du Roi Dragon. Mais bon, c'est toujours un plaisir quand même.
La légende du Roi Dragon d'Arthur Lavandier, un opéra participatif et étonnant, avec des décors chamarrés drôles, hein, vous nous le confiez Marie. Oui. Opéra qui se joue donc à l'Opéra National de Bordeaux, demain et le 20 novembre. Merci beaucoup Marie.
De rien Saskia.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
L'Allegro du quatrième concerto d'Antonio Vivaldi, l'hiver, qui va peut-être bien avec le temps, que vous pouvez observer, ou peut-être sentir déjà si vous êtes hors de chez vous. Giuliano Carmignola ici, l'Orchestre Baroque de Venise, Andrea Marcone pour ce chef-d'œuvre d'Antonio Vivaldi. Il est 8h30. Et pour nous réchauffer, eh bien la chronique battement de cœur de Marc-Olivier Dupin. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Et nous allons retrouver la petite enfance ce matin.
Oui, avec les comptines. Les comptines, c'est très important dans la vie musicale d'un enfant et pour son développement. Et nous allons commencer par entendre une de mes préférées.
Promenons-nous dans les bois.
mets mes chaussettes.
Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait.
Ça me rappelle des souvenirs, Marc-Olivier. En tout cas, pourquoi tant donner d'importance aux comptines ?
Les comptines, c'est très important dans la première rencontre de l'enfant avec la musique. D'abord, c'est souvent le premier contact avec la pratique. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît entend de la musique tout de suite, parfois même avant. Mais quand il naît, il entend plein de choses. Et la comptine, c'est au fond son premier moment de pratique. Et ça, c'est évidemment très important. Par ailleurs, c'est le chant à plusieurs. Quand à l'école, au jardin d'enfants ou à l'école, ou même en famille, ils chantent. Et c'est l'interaction avec l'autre, c'est-à-dire c'est la première, au fond, c'est une interaction avec le monde, avec le langage, avec la mélodie, etc. Donc c'est très important pour ça. Et aussi, une autre bonne raison de faire chanter des comptines à vos enfants, c'est la première pratique artistique pluridisciplinaire. C'est très important parce que, vous le savez, les systèmes d'éducation sont très verticaux, c'est-à-dire en silo. On apprend la grammaire, on apprend à parler, on apprend à compter, etc. Mais la comptine, c'est par nature pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on chante sur un texte. On chante souvent, d'ailleurs, aussi par rapport au mouvement, à la danse. Et donc, c'est une approche très transversale au fond des différents savoirs et différentes pratiques. La comptine est une découverte absolument énorme pour les enfants, tout ce qu'on peut y trouver. Et puis c'est aussi un moyen de rencontrer des fondamentaux. Je vais vous donner un petit exemple. Un rythme très simple, l'anapeste, deux brèves et une longue. Par exemple, vous l'avez dans « Promenons-nous dans les bois », mais aussi dans « Sa maison, un grand cerf », etc. Vous avez beaucoup de comptines. Beaucoup de comptines qui commencent par deux croches et une noire, ou deux noires et une blanche. Et d'ailleurs, vous qui posez beaucoup de devinettes à vos auditeurs, chère Saskia, je vais vous en poser une.
Ah, c'est à mon tour maintenant.
C'est à votre tour. Est-ce que vous connaissez une comptine, une autre comptine, qui commence par deux brèves et une longue ?
J'ai peut-être une idée. Sur le pont d'Avignon.
Vous avez gagné. Bravo.
Super, j'ai gagné quoi?
Vous avez gagné la considération de vos auditeurs. Encore davantage. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces ingrédients de la comptine, on va les retrouver à la fois dans la musique populaire, si on prend ce rythme, pam, 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 on l'a dans la bourrée, qui est une danse populaire, donc la danse, encore la danse, et on l'a aussi dans la gavotte. Et donc, on va entendre le plus génial d'entre tous, Jean-Sébastien Bach, la gavotte en rondeau pour violon de la partita de Bach en mi majeur.
Cette gavotte de Bach par la merveilleuse Amandine Beyer, je ne vais plus l'écouter de la même manière grâce à vous, Marc-Olivier. Je vais penser à toutes ces comptines, évidemment, que vous nous proposiez ce matin de découvrir. Faites chanter vos enfants, mais chers auditeurs.
On
surtout
en reparlera des comptines.
Ah, on est bien d'accord, j'espère bien. En tout cas, à 8h34, je ne peux qu'inviter nos auditeurs à se ruer sur Internet pour écouter cette chronique et la partager. Et puis, en attendant, Marc-Olivier, moi, j'ai choisi une comptine pour vous. Comptine en espagnol, on appelle ça un villancico. C'est une chanson simple, très joyeuse. Je prends un petit peu l'avance puisqu'elle est d'habitude chantée pendant la période des fêtes de Noël dans les pays hispanophones. Je ne sais pas si vous connaissez los peces, ça veut dire les poissons.
Non.
Eh bien, on va écouter la chanteuse que j'aime beaucoup, mexicano-américaine, Lassa de Cela.
Está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y los peines de plata fina, pero mira cómo beben los
los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando y va caminando solita. Lleva pa' compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Adiós, San José, antes que el niño naciera. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiene del romero. Los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer.
Los peces contine espagnol, ici interprété par la Sade Sela. Marc-Olivier, vous allez apprendre ça pour la semaine prochaine. Il le a chanté, bien
avec
sûr.
Avec joie.
Ah, je me réjouis de vous entendre. En tout cas, bonne semaine, Marc-Olivier.
Merci.
Et puis, à 8h et presque 39 minutes, c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Bonjour Paul-Arnaud Péjouan.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes directeur artistique du festival L'Esprit du Piano à Bordeaux. Festival qui a commencé il y a déjà 3 jours, mais qui, pour notre plus grand bonheur, se poursuit jusqu'au 7 décembre. 10 ans déjà pour ce festival. Quel est peut-être le souvenir le plus marquant, Paul-Arnaud Péjouan?
Je pense que le souvenir le plus marquant, ça a été la première année, parce que nous avons invité Aldo Ciccolini, qui n'avait jamais joué à Bordeaux de toute sa carrière. C'était à l'époque au Grand Théâtre et ça reste un souvenir merveilleux.
Et quand vous soufflez sur les 10 ans, sur les 10 bougies de ce festival, à quoi pensez-vous?
Au temps qui passe trop vite, aux artistes que nous n'avons pas le temps d'inviter, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on voudrait faire jouer. Et c'est un festival qui a une forme courte, hein, c'est 13 concerts en 3 semaines. Donc volontairement, on a choisi d'avoir un festival très dense et pas trop étalé dans le temps. Il s'inscrit dans une saison générale qui est la saison symphonique de l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine. C'est un temps fort en cette saison, qui est du 13 novembre jusqu'au 7 décembre. Et donc évidemment, ça suscite un peu de frustration, parce qu'il y a surtout beaucoup de jeunes de la nouvelle génération qu'on voudrait inviter et qu'on ne peut pas inviter.
Hein. Mais, il faut faire des choix.
Ce qui est important, c'est que On s'est aussi fixé comme objectif d'inviter les grandes figures du piano contemporain. Et c'est vrai que pour cette 10e édition, on a quand même l'opportunité d'avoir 4 pianistes majeurs de la scène internationale. Et les présenter à un temps aussi court à Bordeaux, c'est pour nous une grande joie.
Et effectivement, les noms sont impressionnants. Hein. Oui. Paul Arnaud Péjoin, je pense à Ivo Pogorelitch, Grigori Sokolov, Arkady Volodos, pour ne citer que ces grands musiciens-là. Vous parliez de jeunes pianistes aussi. Il y en aura 2 cette année, Marie-Ange Gucci et puis Célia Onetto Ben Saïd, qu'on a régulièrement l'occasion d'entendre, en tout cas, puisque de très beaux disques sont sortis ces dernières années avec ces deux jeunes pianistes, évidemment. Je vous propose d'écouter une œuvre que nous allons entendre le 4 décembre prochain, dans le cadre du Festival L'Esprit du Piano à Bordeaux, ce sera Sous les doigts d'Arkady Volodos. La 5e consolation en mi majeur de Franz Liszt, ici interprétée par Daniel Barenboim, mais qu'Arkady Volodos s'interprétera bien le 4 décembre prochain à 20h à l'auditorium de l'Opéra de Bordeaux, dans le cadre du festival L'Esprit du Piano à Bordeaux, que dirige Paul Arnaud Péjoin, qui est notre invité ce matin. On le disait, un des grands noms, Arkady Volodos, c'est un luxe aussi de pouvoir proposer ce nom-là à l'affiche d'un festival.
C'est un luxe et c'est, vous savez, l'histoire d'une amitié parce que je m'occupe aussi du festival Piano en Valois à Angoulême et nous avons invité Arkady il y a 25 ans quand il était totalement inconnu en France. C'est la deuxième fois que nous l'invitons à l'Esprit du Piano et c'est un pianiste que je défends et que j'aime.
Et puis il y aura d'autres très beaux pianistes aussi que j'ai oublié de citer tout à l'heure, Nelson Görner et Philippe Bianconi.
Nelson Görner, bien évidemment. Alors Philippe Bianconi qui va, ça aussi c'est une des particularités de l'Esprit du Piano. Depuis 6 ans maintenant, nous avons chaque édition un concert piano ou de piano avec le chœur de l'Opéra National de Bordeaux, qui est un très beau chœur, dirigé par Salvatore Caputo. Et donc, cette année, il y aura Philippe Bianconi, que tout le monde connaît, et un jeune pianiste que personne ne connaît, qui s'appelle John Gadd, qui a 22 ans, pour qui c'est une opportunité extraordinaire dans sa carrière de jouer avec celui qu'il considère comme un grand maître, Philippe Bianconi, dans la version originale du Requiem allemand de Brahms à deux pianos et chœur et soliste.
Vous évoquiez l'Opéra National de Bordeaux avec ce chœur. Il y a un partenariat qui existe depuis le départ, depuis la création
Absolument.
De ce festival avec l'Opéra National de Bordeaux.
Oui, c'est un partenariat très fort. Moi, j'ai un immense plaisir de travailler avec les équipes et de l'Opéra et de l'Orchestre National, qui sont des équipes passionnées et qui ont toujours accompagner l'esprit du piano en nous laissant une grande indépendance artistique, en même temps dans un esprit de concertation, pour par exemple éviter des doublons de programmation. Et je pense que c'est assez délicat comme exercice, parce que bien sûr, ils invitent toujours deux ou trois autres pianistes pendant l'année symphonique, mais on a réussi à trouver cet équilibre et je trouve que c'est une grande chance pour les mélomanes de Bordeaux.
Alors, l'Auditorium de l'Opéra qui accueille donc une série de concerts de ce festival L'Esprit du Piano. Il y a d'autres lieux aussi qui sont investis par le festival Paul-Arnaud Péjouan.
Oui. Alors, nous avons une politique très ambitieuse vis-à-vis des étudiants. Ça, c'est grâce au support particulier que nous avons depuis la création avec la Fondation BNP Paribas, qui tient à ce qu'on associe vraiment les étudiants au maximum dans le festival. Et je trouve que c'est très important pour nous. Et on fait deux concerts en université. On fait un concert à l'Université Bordeaux-Montaigne, qui est la grande université de lettres et de sciences humaines de Bordeaux, dans un amphi qui est magnifique, qui s'appelle l'amphi 700, parce qu'il peut contenir 700 étudiants. Mais il a une particularité, c'est qu'il a été construit grâce à un mécène dans les années 50 en bois exotique. Et il a une acoustique extraordinaire pour un amphi universitaire. Donc on y fait un concert maintenant depuis 8 ans, je crois, et ça a toujours un grand succès. C'est amener la musique dans l'université, et on a étendu cette expérience depuis maintenant 3 ans à Sciences Po Bordeaux, dans aussi un auditorium de Sciences Po Bordeaux, où on propose donc aux étudiants d'avoir un accès direct au festival.
Et ça, ce sera pour le concert de cette jeune pianiste dont je parlais tout à l'heure, Célia Onetto Ben Saïd, le 28 novembre prochain. Métamorphosis, Philippe Glass, interprété ici par Bruce Brubaker, musicien qui sera à l'affiche du festival L'Esprit du Piano à Bordeaux ce soir à 20h à l'Auditorium de l'Opéra, dans un hommage à Philippe Glass. Tiens, on n'écoutait pas cet extrait par hasard, Paul-Arnaud Péjouan.
Non, c'est une musique que j'aime énormément. Je trouve qu'elle n'est pas suffisamment jouée sur les scènes françaises. Vous parliez de jeunes pianistes français, j'étais très heureux curieusement, de faire découvrir cette musique à la nouvelle génération française qui souvent ne la connaissait pas et qui maintenant prend plaisir à la jouer en concert. Donc, je crois que c'est une musique qui va à nouveau trouver son public. Là, c'est une forme un peu particulière parce que Bruce Brubaker va être associé à Max Cooper qui va apporter une touche électro un petit peu avant-gardiste, cette musique. Mais quand elle est jouée simplement au piano, je trouve qu'elle a un charme, une magie tout à fait particulière.
Et c'est un avis que je partage, évidemment. évidemment, le Festival L'Esprit du Piano qui aborde eh bien, la musique classique, la musique jazz aussi, et du jazz il y en aura le 29 novembre avec le Monty Alexander Trio et surtout le 7 décembre avec le trio de Jackie Terrasson à l'Auditorium de l'Opéra. Et ça, vous m'avez fait découvrir cet album qui vient de paraître, que je n'avais pas encore écouté, Paul Arnaud Péjouan. Il y a des extraits de ce disque qui seront d'ailleurs interprétés lors de ce concert, avec notamment au programme un compositeur qui a beaucoup inspiré, influencé Jackie Terrasson. Il s'agit de Mozart.
Oui, et alors j'en suis d'autant plus heureux que Jackie Terrasson, c'est devenu un ami très proche. Je le connais maintenant depuis presque 30 ans. Et on faisait une tournée en Chine pour un autre festival, qui est le Festival Piano Jacobin. Et après un concert, on discute souvent comme ça avec Jackie, assez tard dans la nuit. Et il me dit, tu sais, je prépare un nouveau disque, et mais j'oserais pas le faire, mais j'ai une idée. Ça serait peut-être de faire une transcription de certains morceaux du Requiem de Mozart. Mais je vais me faire assassiné par la critique, etc. J'ai dit, écoute, Jackie, moi, je trouve que si t'as envie de faire ça, il faut le faire. Hein? Donc, on a discuté du Requiem, et c'est vrai que quand j'ai découvert, enfin, il me l'avait fait écouter un peu auparavant, mais quand j'ai découvert son Lacrimosa dans son disque 53 qui est paru il y a maintenant un mois, je trouve que c'est une version magnifique. Des personnes peuvent ne pas être d'accord avec sa transcription, mais je trouve que c'est une très, très belle approche, et surtout, ça ouvre le champ du jazz. Je crois que le jazz a le droit de s'aventurer sur les, entre guillemets, les terres sacrées du classique.
Et vous avez bien raison. Le Festival L'Esprit du Piano se poursuit jusqu'au 7 décembre. Une adresse pour avoir le détail de cette programmation riche et bien chargée, espritdupiano.fr. Je vous mettrai le lien bien évidemment sur la page Musique Matin sur le site de francemusique.fr. Merci beaucoup Paul Arnaud Péjouan d'avoir été des nôtres ce matin et bonne continuation dans ce beau festival.
Merci beaucoup.
Le Lacrimosa du Requiem de Mozart, revisité ici par Jackie Terrasson, extrait de ce disque paru chez Blue Note. Il est 8h53.
Le maestro est sur le plateau. Allons-y. Effet 203.
Et c'est l'heure de la chronique de Roselyne Bachelot. Bonjour Roselyne.
Bonjour Saskia.
Et décidément Roselyne, après le Freischütz la semaine dernière, c'est à nouveau un archer qui a vos faveurs ce matin avec Guillaume Tell.
Pas étonnant Saskia, puisque mon nom de naissance, Narquin, signifie archer en vieux français. En constatant que Serge Dorny, le patron de l'Opéra de Lyon, avait programmé Guillaume Tell en octobre dernier, j'ai fait un déplacement où les délices gastronomiques lyonnaises ont pimenté mes retrouvailles avec l'archer de mon cœur. Faut-il présenter le dernier opéra de Rossini, créé le 3 août 1829, tant la mythique et tonitruante ouverture a illustré de nombreux films tels Orange Mécanique, des bandes dessinées ou des publicités. Bon, très bien, je vais pas vous le chanter trop longtemps. Et oui, il faut y revenir, car on peut quasiment parler d'opéra maudit à propos de cette œuvre majeure. Oui, c'est une œuvre majeure, puisque le musicien est un précurseur qui n'hésite pas à prendre tous les risques en quittant l'écriture ornée qui a fait son succès. il ouvre une nouvelle page lyrique, celle du grand opéra à la française, sur deux thèmes qui vont le structurer, l'amour de la nature et le patriotisme. Et pour cela, il choisit une œuvre éminemment romantique, le Guillaume Tell de Friedrich von Schiller, avec un livret écrit à plusieurs mains, conduit par Victor-Étienne de Jouy. Comment expliquer alors le relatif insuccès de cette œuvre lors de sa création à l'Opéra de Paris et ses trop rares apparitions sur nos scènes ? On peut comprendre que la démarche innovante de Rossini ait au départ dérouté le public, mais celui-ci s'est vite rattrapé et jusqu'en 1932, il l'a acclamé 911 fois dans la maison que Verdi appelait la Grande Boutique. Incompréhensible donc que la rareté de ses apparitions. La production de 2003 faisait suite à 71 ans d'absence de notre première scène nationale et même au festival Rossini de Pesaro, les représentations sont exceptionnelles. Alors on a beaucoup glosé sur la longueur de l'œuvre et il est vrai que donnée in integro, avec les entractes comme à Pesaro en 1990, on atteint facilement les 6 heures. D'ailleurs Rossini, en dirigeant les répétitions, avait lancé aux musiciens « Messieurs, il n'y a pas une minute à perdre ». Et à une admiratrice qui lui racontait avoir assisté au deuxième acte de l'opéra comique, le maestro avait rétorqué « Vraiment, tout le deuxième acte ?» Toutefois, l'explication de la longueur ne tient pas, car bien des opéras moins populaires sont de la même durée. Plus compréhensible est de relever la nécessité d'un casting terriblement exigeant. On a même qualifié le rôle d'Arnold de « tombeau des ténors » et c'est à propos du fameux asile héréditaire que Gilbert Dupré créa le fameux Contrude de poitrine en 1831. Saluons donc le bonheur de cette production lyonnaise après celle très réussie également des Corégies d'Orange. Sous la baguette de Daniele Rustioni, le casting est international mais phrase parfaitement le français. Dans le rôle titre, on trouve le Sicilien Nicolas Aleimo qui survole le personnage depuis plusieurs années. John Osborne nous envoie un asile héréditaire magnifiquement et Jane Archibald dans Mathilde fait un triomphe dans les tubes qui lui reviennent de Sombre Forêt à Pour notre amour plus d'espérance. À noter le chœur qui est un personnage à part entière dans l'œuvre. Le chœur de l'Opéra de Lyon est au top et les autres rôles, même secondaires, parfaitement tenus. Alors, pour les retrouver, l'émouvant chœur final du quatrième acte, oui, vraiment, liberté redescend des cieux.
Merci beaucoup Roselyne pour cette chronique. On réécoute sur francemusique.fr et on vous retrouve bien très prochainement sur les ondes de France Musique.
Et oui, au revoir Saskia, à la semaine prochaine.
Ce Guillaume Tell de Rossini à découvrir sur France Musique dès 20h bien sûr avec Judith Chen pour votre soirée opéra. Voilà qui termine Musique Matin pour qui vous accompagnait aujourd'hui évidemment. Un petit mot sur le concours, je vous proposais des places pour le concert que le guitariste Thibaut Covin donnera le 26 novembre prochain au Palace à Paris. Il fallait pour cela deviner de quel instrument Thibaut Covin joue-t-il. Eh bien, la bonne réponse était de la guitare. Vous avez été nombreux à participer. Les gagnants seront recontactés par courriel très prochainement. Je vous souhaite une très très belle journée et je ne quitte pas le micro sans avoir remercié l'équipe Solal Mazeran, Laurent Lefrançois, Alexandre Billard et Cindy Legrumelec. Très bon week-end.
À réécouter sur francemusique.fr.